Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voilà donc ensemble à nouveau dans nos lectures en liberté pour la suite du texte de Yves Eléouette, Falroun. Routes et champs, villages ancrés dans la terre. Falroun repart. Le mur se lève contre la mer, béant l'œil unique de la fenêtre. La lumière du matin éclaire la ruine. À travers l'ouverture, on distingue l'agitation de l'océan. Une partie du mur est dans l'ombre, et sur le sol se déplace une ombre différente. Maintenant, le bruit de la machine a décru, et puis s'est éteint. On n'entend plus que la mer et le piaillement des mouettes. Une forme ailée semble naître des nuages, et c'est l'oiseau dont parlent les pierres quand elles s'ennuient. Et il demeure un moment à l'aplomb du mur. Ses ailes sont agitées d'un battement régulier et rapide, et il se laisse glisser, pareil à un avion de papier, dans un mouvement oblique plein d'élégance, et il vient se poser sur le faîte de la ruine. Il est très beau. Le dessus et les côtés de sa tête sont d'un gris bleu un peu roussâtre, avec un sourcil clair. Le manteau est roux, tacheté de noir. Le croupion et les suscaudales gris bleu. Le dessous roussâtre pâle, rayé à la poitrine et tacheté de brun noir au flanc. Le dessous des ailes est blanc, tacheté de noir. Les rémiges sont noires avec des liserés pâles et des barres blanchâtres aux vexilles internes. Les secondaires internes sont marquées de roux. Les rectrices sont gris-bleu avec une large barre noire et un liseré terminal blanchâtre. Elles sont barrées de noir aux vexilles internes. Le bec est bleuâtre à pointe noire. Le cercle orbital et les pattes sont jaunes, les ongles sont noirs, l'iris brun. Falroun va par la route de Corniche jusqu'au village de ferme basse aux ouvertures petites sous les toits de pierre. Les dunes ont un mouvement doux. Elles sont parsemées de chevaux pommelés et de fleurs pâles que le vent pousse et retrousse. Le capitaine sur les mers. Le capitaine sur les mers, dans son grand coffre de fer, roule. Le navire de minium, de bois, de goudron, de peinture forte. Sa cheminée, cigare plantée dans les fontanelles, et les ballons de fumée se dissolvant au-dessus du sillage. La grande coque déchire l'eau comme on déchire une jupe, et sur les cuisses et le bas-ventre, une chemise de toile fine craque. De bas en haut, jusqu'à l'ouverture marine et poilue sous la bouée du ventre et son trou lombilique. Elle s'ouvre et se répand de part et d'autre de l'étrave et file derrière l'étambot en rouleau blanc de cuisses douces où bat le sang jusqu'au ravin fiévreux. Algues des sargasses traversées par la masse des anguilles pondeuses. tapioca de larves fourmillant dans la muqueuse de la mer. Il roule très lentement. Guidant à peine son véhicule, il s'y fie comme un animal de trait connaissant son chemin. Les roches géantes, gardiennes des mers, peuvent le voir passer à petit bruit. La dérisoire pétrolette frôle les masses camuses. Horus est remonté se fixer vers le haut dans l'implacable bleu. Elles peuvent le voir s'éloigner par les petits chemins des dunes. Ils n'ont pas encore été effacés. Parfois, il lui faut s'engager dans une dépression du sol où croupit une eau verte purée de pois cassés. Il passe, oui. La mer reste là. Elle borde là ses grands draps tout dus, long là, long l'air, Jésus long là, carapate, patte sur les chemins, sentiers, ficelles, cordes, rubans, fils, chemins. Il abandonne provisoirement les trois bornes, les trois pierres, les trois crânes enfoncés dans la terre contre le mur. La mer joue, longuement, sans fin. La maison hantée plus loin apparaît, surgit d'un creux du sable, tous ses volets fermés. Le toit change de couleur avec le ciel. Il semble que la maison soit prête à disparaître dans l'air, aspirée qu'elle serait, suivant le temps, par le bleu ou par les nuages. Cette maison vide depuis peut-être 40 ans. On ne sait plus trop à qui elle appartient ou a appartenu, et quelle importance. Les registres, toujours les registres. Un soir, très tard, cependant, à l'aide de son couteau à lame multiple, y compris des ciseaux et un tournevis, inséré et claquant sous le pouce dans un joli manche de corne écussonné, oui, à l'aide du tournevis, à vrai dire, il a réussi à... Et précédemment, il avait fait pression sur une espèce de targette comme ça de la porte de la cave qui ressemble à l'entrée d'un sépulcre. Une porte en bois. Épaisse, entre deux épaules de sable bordant la maison, lourde maison aux murs sales. On y accède par des escaliers descendant un peu ensablés, je veux dire à la cave. Et quelque chose, allez savoir quoi, ne devait pas tenir ou était peut-être un peu pourri dans cette serrure, si bien qu'en fourgonnant avec son couteau, il n'avait pas eu grand-peine à la forcer. Et il n'était même point besoin de faire attention ou quoi que ce soit, car il pouvait être 11 heures ou minuit et Falroun était suffisamment saoul pour bannir de son esprit toute pusillanimité. C'est pourquoi cette vieille idée de visiter la maison, qu'il voyait toujours d'assez loin ce bloc d'inquiétude, il la concrétisait ce soir-là, cette nuit-là. Toujours vue d'assez loin, dans l'ombre de laquelle naissait parfois un grouillement d'insectes mous, comme quand on ferme les yeux et on y applique les poings. Et aussi quand on a la fièvre. Et la chambre se met tout à coup à vivre. À respirer, on peut l'entendre. À remuer, les murs se déforment, se gondolent. Et puis... il semble être criblé de petits trous d'où sortent des larves par milliers, et elles se tortillent et envahissent les murs, bien sûr, mais aussi les meubles, le plafond, le tapis, s'il y a un tapis, ou la surface de la moquette, si on a préféré cette solution, ou plus simplement le parquet, parfois ciré, et de ce fait dangereux quand on l'arpente dans des chaussons à semelle de feutre. Sur la dune sableuse, sortant du sable sous-jacent parmi la poudre duquel croît une herbe clairsemée que le vent agite toujours plus ou moins, plutôt plus que moins, et on entend cette vibration, cette espèce de frissonnement léger, souvent à peine perceptible, mais qui ne cesse pas, à peu près pas. Et contrairement à la ruine décrite plus haut, ici, la compacité même. Un bloc aveugle, marqué du côté du vent dominant sur la surface de l'un des pignons d'une sorte de grande tache d'humidité, dont les contours dessinent un vague dromadaire, reconnaissable à son profil de pantoufle avachie et à son unique bosse, au centre de laquelle règne la circonférence d'un œil de bœuf à l'entourage de pierres apparentes. Sans doute du granit. Disposé en rayon et saillant légèrement sur le crépi. Au fond, la noirceur sans éclat et poussiéreuse du verre. À l'aide de cette lame épaisse et plate, il a fait glisser la targette ou la gâche. Et, bien sûr, l'électricité a été coupée depuis belle lurette. C'est pourquoi il est heureux qu'il possède une torche à pile. Avec son faisceau semblable à celui d'un phare, elle éclaire la vaste cave, humide et presque vide. Si l'on excepte quelques caisses, un fauteuil bergère, dont la bourre sort par les trous de la tapisserie éclatée en mains endroits, quelques bouts de bois sans signification empilés dans un coin, et un nombre imposant de bouteilles vides recouvertes d'un vellum en toile d'araignée. Les marches d'un escalier de ciment sont visibles sur la droite et s'élèvent jusqu'à une porte non fermée à clé par laquelle on a accès aux appartements, et d'abord à la cuisine, dans laquelle veille sombrement une table recouverte d'un journal vieux d'un demi-siècle, trois tabourets, un placard contenant un litre de rhum non décacheté, une bouteille de Porto entamée, à l'intérieur de laquelle le liquide supporte une couche épaisse de moisissure, un paquet de thé scellant dans son emballage en papier d'étain. On peut voir ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Oui, une cuisinière à charbon, un fourneau, ou est-ce un réchaud à gaz ? Ça semble être plus grand que ne le sont habituellement les réchauds, je n'en dirai pas plus. Côte à côte et recouvert conjointement, tout est recouvert dans cette aventure. Les bouteilles vides de la cave, la table de cuisine, le porto tourné, j'en oublie probablement, de feuilles de journal. Une fois de plus. Ou de journaux. Falroun, dans un buffet, a trouvé des verres kudjat à facettes. À l'aide du tire-bouchon de son couteau de corne, il a donné de l'air au litre de rhum, dont il se sert abondamment. Le liquide foncé remplit le verre aux trois quarts et son odeur forte et fraîche chasse les relents de renfermés et de poussière, dont chaque cloison est imprégnée, sinon chaque objet.
Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Quand bien même se lève en fleurs de bruyère la graine de soumission, je retrouve ici ma terre, la vallée de mes amours. En ma chaumière se refont les vents du nord, traînant dans leur colère le duvet des oiseaux morts. Et la sombre demeure qui se rit de la pluie se refait d'heure en heure. Beauté sans nuage et nuage sans oubli. Et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Ce fut la rosée de mai qui fit partir l'enfant en quête de nouvelles rosées. Tout est gîte au printemps. Ce fut décembre qui ramène l'oiseau aux granges du passé. L'hiver, il n'est qu'un nid, un visage, un appel. Cette odeur de fumée, piquée de gel. et voici bien ma terre, la vallée de mes amours. Voici venir ailée de nuages, le sourire d'une mère, cheveux blancs en bandeaux de lumière. C'est bien ici ma terre, la vallée de mes amours.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après le moment musical, nous nous retrouvons pour la suite du texte de Yves Léouette, Falroun. Falroun s'assied et se met à parcourir distraitement les articles du journal sur la table. Bien sûr, il s'agit là d'une vieille chronique. Les lignes ont l'air de remuer dans le fond de la torche. En réalité, c'est la main de Falroun qui agite la source lumineuse sans qu'il s'en aperçoive. C'est fantastique. Il n'y a pas de souris dans cette baraque, sinon tous ces journaux auraient été bouffés depuis longtemps. Le cube de ciment n'a laissé pénétrer personne à part lui, dirait-on. À moins que là-haut. Il vide lentement le verre de rhum. Il garde le liquide dans sa bouche, brûlant les muqueuses de la bouche et la langue. C'est comme un cornichon dans un bocal de vinaigre. Et dans le plâtre éclairé d'un des murs de la cuisine sur lequel végétait la chétive étoffe d'une manique, apparaît un chemin de terre descendant à travers les siècles des siècles. Et un homme vu de dos, quelqu'un sans doute, sans aucun doute, de familier. Une silhouette comme, j'imagine, inimitable, je présume, ou alors la nuit avancée, l'effraction et tout ce qui s'en est suivi joue avec ma ligne de défense contre les ombres. Appuyé au guidon d'une bicyclette mais marchant à ses côtés, comme quand on guide un cheval, et de si loin déjà, et de dos, avec les cheveux si noirs ou si blancs. La marée, la lune, le rhum, ils sont peut-être pour quelque chose. Descendant, le long de ce chemin, était-il vieux ? Le patriarche lui-même. Blanche, bleue, nuage, fumée, cirée reine, ou sirène, jour de pluie, fournaise impeccable. Oui, jour chaud, sans aucun doute, sans aucun doute, et de même que la manique d'étoffe végète tristement dans l'obscurité sur le mur de la cuisine depuis tant d'années de même. Et il descendait ce chemin de terre vers la rivière ou le fleuve, ou peu importe, et s'appuyait à un vélo de couleur indéterminée aux jantes croûteuses. Là où ça doit briller quand on a passé le chiffon ou la peau de chamois entre les rayons. Les rayons eux-mêmes, plus ou moins crottés de boue sèche et les pneus aux gravures usées par là-dessus. Et qui était déjà ce personnage à travers le mur et la lumière jaunâtre de la torche électrique. Il descendait depuis tant d'années, je l'ai dit, depuis toutes ces années incomparables maintenant. Je l'ai dit pour autre chose, mais après tout, ce chemin de terre bordé de certes jonquilles sauvages. Et sinon, ne s'appelle-t-elle pas Narcisse ? Ou bien était-ce une touffe de giroflées ? À moins que ce ne fussent des boutons d'or dans leurs pétales cirés vers la rivière. M'est avis que c'était son père qu'ainsi il regardait depuis l'arrondi du bras de sa bonne. Calé qu'il était sur les seins d'icelles enveloppés de laine. Et le soir, il y avait déjà ce boîtier à piles et déjà ce cône lumineux sur ou à côté, à proximité immédiate de son lit, pour voir s'il dormait, pour le constater dévisu. Car il toussait pas mal à l'époque, étant un peu faible des bronches au début, et puis tout cela s'arrangera par la suite. Et c'était ce rond de lumière, cet œil éblouissant. Il se promenait comme ça sur lui d'abord, et ensuite avait frotté le mur d'un trait vite effacé en effet. Oui. Quelle année passée et de quel siècle ? Il se rappelait les insectes dans l'herbe et le bout de rivière où les truites, se déhanchant, si l'on peut dire, accompagnaient le mouvement des herbes argentées. Et le surlendemain, ou plus tard dans l'année, à l'époque, croyait-il, des grandes marées, s'étaient embarqués tous les deux, sa mère et son père, pour une promenade. Les méduses flottaient. Champignons translucides et se pressaient. Surtout, il faut éviter de marcher dessus quand elles sont échouées sur les plages. Petit con, il avait posé le pied sur l'une d'elles pour voir, et ensuite, tout ça, c'était cloque, et toute cette merde, et pas moyen de poser l'arpion par terre, ça brûle, la vache. Autour du bateau, sentant bon la peinture fraîche, son franc blanc. L'étrave déchirant l'eau que tu devines foutrement froide et sur laquelle le rafiot rebondit presque, volant sur une raquette et sur les boyaux de chat de la raquette. Tu penches ta face là-dessus et il y a des coups secs de clapot qui te relèvent le bateau et te déséquilibrent. Tu prendrais facile le bordage en pleine poire. Et donc les méduses passaient et défilaient sur l'eau noire, miroir, et s'éloignaient parfois scintillante à la manière d'opale molle. Elles glissaient le long de la coque, semblable à une invasion de martiens avec leurs grosses têtes gélatineuses et sans yeux, et au-dessous le paquet de membres pendouillant dans l'eau en longues antennes tire-bouchonnées et accrocheuses. Indifférentes, et se laissant dériver dans le courant les unes derrière les autres et quelquefois par grappe où peu s'en fallait. Et il se demandait d'où elle venait, et Béniguette, le patron, était incapable de le leur dire, bien qu'il fût renseigné sur bien des choses, à l'en croire, ayant rencontré maint Léviathan et d'autres monstres durant ses voyages autour de la boule. Oui. Et pendant plus de 25 ans, des mers de Chine aux grands lacs d'Amérique. Et tu ne serais pas un peu de Marseille par hasard ? Non. Et ces salauds-là, en effet, mentent comme ils respirent, du reste tous des feignants. Mais moi, je peux vous le jurer, c'est comme la fois où, après le naufrage d'une jonque, je suis resté plus de 10 heures dans la patouille, et ce ne sont pas les requins qui manquèrent autour, et je fus repêché plus tard par une canonnière américaine, j'étais le seul survivant. Et comme il soulevait Vareuse et Tricot sur son échine ossue, on pouvait y voir un dragon bleu tordre son corps maillé d'écailles et darder une langue trifide et rouge, ondulante et pointue, ainsi qu'une triple flamme. Et il arrivait qu'aux femmes seules, il montra aussi autre chose, d'après ce que j'ai entendu dire. Et dans le poste minuscule à l'avant dormait toujours une bouteille de ratafia quelconque, couchée, poupée de verre, à l'abdomen violemment colorié dans les plis d'un vieux ciré jaune aux boutons mal cousus. Et lui attachait toujours la putain de barre avec un bout, ou disait à la passagère « Gouvernez toujours comme ça, je m'absente une petite minute ». Et même on disait qu'elle venait spécialement pour la chose. Lui, pendant ce temps-là, allait licher une lampée des familles à son litron et le reposait dans le ciré, le flattant de la main et lui roucoulant « Dors, mon bébé chéri, à tout à l'heure !» Là-dessus, il ressortait du poste et disait à la femme, pourvu qu'elle ne fût pas d'âge canonique, « Et sur la poitrine, j'ai aussi un joli perroquet !» Se disant, il tirait sur le bord de son col afin qu'elle coulât un regard sur la pente broussailleuse de son torse, et comme elle n'y découvrait aucun psittacidé gravé à l'encre sur la peau par l'aiguille du tatoueur et pour cause, il ajoutait avec un rire « Je crois bien qu'il est descendu sur le perchoir. » Là-dessus, il sortait son mât de beaupré rutilant du bout et violacé comme un flegmon, et la femme ne savait trop que, et feignait d'être, tout en regardant entre ses doigts mal joints sur les yeux, tandis que la barcasse tanguait quelques solides coups sonnant tel un sabot sur la pierre d'un seuil. Orgie en mer. Car on coupait le moteur et l'estivante était aussitôt besognée à même les planches du fond dans l'odeur du goudron, et bien sûr, si le temps le permettait. C'est ainsi qu'ils étaient partis un jour, ses pères et mères, pour une promenade, bien que la mer eût été assez forte la veille pour donner quelques inquiétudes. Dans l'après-midi, un gros orage s'était levé au bout de l'horizon, alors que le petit navire n'était déjà plus qu'un minuscule point blanc au milieu des moutons d'écume, non loin de l'île Saint-Hugues-d'Oile, où il devait s'arrêter avec Béniguette, lequel, ce jour-là, s'était bien gardé de mentionner l'existence du fictif ara pectoral. Et puis le ciel était devenu aussi noir qu'un fond de peau, et les vagues avaient levé leurs genoux plus haut que leur tête. Et tout ce qu'on avait retrouvé peu de jours après, c'était le tatoué lui-même, dont le corps gonflé de gaz roulait dans la mer apaisée, et dont le visage dévoré par les mouettes ressemblait à un fromage décomposé. On l'avait identifié grâce au dragon sur son dos. Laquelle bête fabuleuse était bien la seule à avoir supporté cette immersion prolongée sans trop de dommages. Et voilà l'affaire. Et voilà ce que Falroun aperçoit dans le rond lunaire de la torche. Le mur de plâtre sale et sa surface grenue travaillée de fissures qui poussent sournoisement comme elle se dessinait déjà craquelure sur la charcutaille nauséabonde du noyer. Alors, il se verse un nouveau verre de ce rhum très brun, incendiaire, et le vieux se met à bouger dans sa tête. Le vieux qui se lève dans sa nuit d'hiver, la bouche amère, et qui cherche en grelottant sa fiole dans la malle d'osier, sous toute l'épaisseur de la pourriture familiale, vieux os cassés et face morte, pleine de trous de morve ou de trous de pu, quand danse la poussière de la lune. Voilà, nous avons terminé pour ce soir et nous reprendrons demain la suite de ce texte de Yves Eléouette, Falroun. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à demain.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.